Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Elena Rubinstein a placé sa vie sous le signe de la beauté, tant celle des femmes que celle de l'art. Redoutable femme d'affaires et l'une des premières self-made women de l'histoire, celle que l'on appelle Madame s'est offert l'une des plus vastes collections d'œuvres d'art au monde et a soutenu de nombreux artistes. Née en 1870 à Cracovie, dans une famille juive orthodoxe très modeste, Elena Rubinstein est l'aînée d'une fratrie de 8 filles. Son rôle d'aînée l'amène à aider ses parents dans leurs tâches quotidiennes, tant auprès de ses jeunes sœurs que dans la boutique de son père, pour lequel elle tient les comptes et assure parfois la négociation avec les fournisseurs. Ses débuts difficiles et modestes forgent en elle les prémices de l'entrepreneuse de génie qu'elle deviendra plus tard. Bientôt, ce bourreau de travail à l'esprit très indépendant supporte mal les carcans imposés par sa famille. Refusant d'épouser l'énième prétendant qu'on lui présente, elle décide d'aller se réfugier à Vienne, chez sa tante. En 1896, elle s'embarque seule pour l'Australie. Elle a alors 26 ans. Après 3 années de dur labeur dans l'épicerie d'un de ses oncles, elle s'établit à Melbourne avec une seule idée en tête, sortir enfin de la misère. La mère d'Elena, attentive à la beauté de ses filles, leur avait imposé un rituel très strict. On ne se couche pas sans avoir nettoyé son visage, appliqué une crème hydratante et brossé ses cheveux. Pour elle, la beauté est le pouvoir des femmes. Elena en a fait sa devise. La fameuse crème était fabriquée par un ami de la famille Rubinstein et Elena en avait emporté une réserve avec elle. Cependant, cela ne pouvait durer qu'un temps. La jeune femme se démène, envoie des lettres à sa mère pour en avoir la recette et passe des nuits blanches à la fabriquer dans sa cuisine. Il ne s'agit plus de faire un produit pour sa propre consommation, mais de la proposer à toutes les femmes qui s'étaient enquis de son secret pour conserver la fraîcheur de son teint et la beauté de sa peau. À 30 ans, Elena, emparée 10 de moins, bataille toujours pour se protéger du soleil et ne déroge jamais aux règles maternelles. Elle écoute avec attention les conseils avisés de M. Thompson, homme d'affaires et fin stratège en marketing et communication, mais suit néanmoins son intuition. Sa crème de soin, enfin au point et baptisée Valads, d'onde dure en hongrois, ne sera pas vendue 2 shillings, comme il le lui suggère, mais 3 fois plus cher. Selon Elena, la beauté a un prix et les femmes choisiront toujours ce qui leur paraît être le must. Pour elle, la beauté est un pouvoir, une science et un art. Dès ses débuts, elle confie à des artistes le soin de mettre en valeur sa marque. Ainsi, le peintre Cyril Dion dessine son premier logo ainsi qu'un dépliant qu'elle fera distribuer dans les tramways et les gares. Cyril Dion fera ensuite une belle carrière et sera exposé dans de nombreux musées aux États-Unis et en Australie. Nous sommes en 1902. Elena Rubinstein ouvre sa première boutique au 243 Colling Street. La pommade Valads soigne désormais les peaux abîmées des Australiennes. Elle conseille ses clientes, installe une cabine dans sa boutique permettant de pratiquer des massages du visage et du corps ainsi que des soins de beauté. C'est un succès fulgurant. Les journalistes veulent en savoir plus et Elena montrera un talent extraordinaire pour s'attirer et conserver leur attention, ne lésinant pas sur les cadeaux. Comprenant l'importance des relais d'opinion et du star system, Elena fait appel à des personnalités en vue pour vanter ses produits et Nelly Stewart, une des plus grandes stars de la scène australienne, devient l'égérie de sa marque. Dès lors, tout va très vite. 3 ans plus tard, elle possède plus de 100 000 dollars sur son compte en banque et a structuré son activité. En 1905, ayant l'intuition que beauté et science sont intrinsèquement liées, Elena décide de rentrer en Europe pour se former à la dermatologie, à l'esthétique et à la diététique. Elle rencontre Marie Curie, avec qui elle mettra au point la classification des peaux en plusieurs étapes, dont les 3 plus importantes seront dorénavant les peaux sèches, normales et grasses. Elle apprend, écoute, note, étudie. De cette exploration naîtront toute une gamme de produits et de conseils. Elle gardera toujours le contact avec le monde de la recherche, précisant dans ses publicités que tous ses produits sont scientifiquement testés, ce qui est très nouveau à l'époque. Dès lors, Elena Rubinstein marque la différence et assied définitivement sa notoriété. Elle ouvre des salons à Londres, à Paris, s'implante à New York et part à la conquête des États-Unis. En à peine 10 ans, sa société est devenue un empire, pesant plusieurs millions de dollars, qu'elle développera et défendra bec et ongles pendant 50 ans, surmontant les terribles événements des deux guerres mondiales. Son mariage avec Edward William Titus, en 1908, marque un tournant dans sa vie. Cet élégant journaliste américain, collectionneur bibliophile, s'occupe de la communication de l'entreprise et va lui faire découvrir le monde des arts. Elena est passionnée par la beauté sous toutes ses formes. Pour elle, la laideur n'existe pas. C'est avant tout une beauté en devenir, question de volonté. Il n'y a pas de femmes laides, seulement des femmes paresseuses, dirait-elle. Vous l'avez compris, pas de compromis. Elena peut être très dure parfois, voire tyrannique. Cette petite femme énergique d'à peine 1m47 est toujours d'une grande élégance, habillée par les plus grands, Poiret, Chanel, Christian Dior, les cheveux tirés en un chignon impeccable d'où jamais un cheveu blanc ne sortira. C'est une acheteuse compulsive. Il en sera ainsi pour les objets d'art comme pour les toilettes et les bijoux dont elle raffole. À Londres, elle rencontre Jacob Epstein. Ce passionné d'art primitif lui transmet le virus et très vite, Elena se passionne pour les masques africains dont elle aime l'expressivité à une époque où peu s'y intéresse. C'est le début d'une immense collection mondialement renommée. À Paris, Misia Serre, mécène et reine incontestée des milieux artistiques, lui fait rencontrer le gratin de l'intelligentsia, dont Colette, Chagall, Marcoussi, Louis de Vimorin, Dali ou Jean Cocteau, qui l'appellera l'impératrice de la beauté. Elle devient très proche du couturier Poiret, lui-même grand collectionneur. Elle écoute leurs conseils, mais suit comme toujours son instinct. Quand elle aime, elle achète en gros. Elle se porte acquéreur de tout un lot de sculptures d'Elina Adelman, avec lequel elle se lie d'amitié. Elle lui passera de nombreuses commandes pour décorer sa maison de Solna et ses salons de Paris et de New York. Elle acquiert un nombre considérable d'œuvres d'art de Joan Gris, Georges Braque, Pablo Picasso, Modigliani, Miro, Laurencin, Dufy, Léger, Matisse, qu'elle apprécie particulièrement. Elle invite les artistes chez elle. Elle adore Chagall, dont l'humour et l'esprit vif la ravissent. La spéculation n'est pas son but. J'ai acheté parce que je connaissais l'artiste ou pour l'encourager parce que j'admirais son talent, expliquera-t-elle. Elle expose ses œuvres préférées dans ses nombreuses propriétés, mais aussi dans ses salons de beauté, ce qui ne se faisait jamais. Pierre Berger raconte « J'ai découvert Brancusi, dont j'ignorais jusqu'au nom, et j'ai appris dans le même temps qu'on pouvait exposer une œuvre d'art dans la vitrine d'un institut de beauté. Plus tard, quand Yves Saint-Laurent a ouvert sa première boutique, nous avons mis dans la vitrine 2 énormes vases de Nunant que nous venions d'acquérir. Inconsciemment, j'ai sans doute été influencée par elle. » Elle fait appel aux plus grands décorateurs et artistes de son temps pour la décoration de ses propriétés, de ses salons de beauté, ainsi que pour les publicités et les packagings de ses produits. À Paris, elle confie la construction d'un immeuble quai de Béthune à l'architecte décorateur Louis Sou et ses collaborateurs. Louis Marcoussi, Max Ingrand, Paul Marot, Richard Georges Desvalières. Il lui aménage également l'Institut de beauté de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Dans son triplex de New York sont exposées sa collection d'art primitif, des tapisseries dessinées par Picasso et Rouault, sa collection d'objets sud-américains en argent dont le goût lui est venu de son amitié pour Frida Kahlo et Diego Rivera, sa collection de maisons de poupées ainsi que de meubles rares et de nombreuses œuvres d'art moderne. La salle de jeu est décorée de fresques peintes par Salvador Dali en 1946. Toutes ces commandes contribueront grandement à la notoriété de ces artistes comme à la sienne. En 1938, elle crée un prix d'art moderne avec Marie Cutoli qui devient sa conseillère attitrée en art, comme l'ont été avant elle Misia Serre, Louis Marcoussi, Jacob Epstein ou Edward Titus. Le premier lauréat est le sculpteur Henri Lorenz qui se voit remettre un chèque de 25 000 francs. Elena Rubinstein ne déroge pas à la règle des femmes influentes de sa génération. Il est de bon ton de se faire portraiturer. Plus d'une vingtaine d'artistes réaliseront son portrait, tous exposés sur un même mur. Elena aime poser et s'attarder devant ses pièces, à son image. Seul Picasso résistera à ses demandes. Ses mémoires laissent entendre que, superstitieux, il avait peur de mourir avant elle s'il terminait son portrait. Rappelle Michel Fitoussi dans la biographie qu'elle consacre à Elena Rubinstein en 2010. À sa mort, à 93 ans, elle est devenue princesse après un second mariage. Son empire s'étend sur plus de 30 pays et emploie 32 000 salariés. Sa marque est aujourd'hui dans le giron de L'Oréal. Durant sa longue et trépidante vie, Elena Rubinstein s'est liée d'amitié avec des peintres et des sculpteurs du monde entier. Se fiant à son instinct plutôt qu'aux modes de l'époque, son amour de l'art s'est étendu à toutes les formes d'expression. Selon elle, ce qui compte avant tout, c'est l'empire émotionnel qu'exerce une œuvre d'art. En 1957, Elena écrit « S'entourer d'objets d'art est comme un équilibre aux soucis que je préconise tant de l'apparence extérieure. C'est de la santé de la vie intérieure qu'il s'agit cette fois. Ainsi, se situent les deux pôles de l'aspiration à l'idéal. » Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir l'exposition « Elena Rubinstein, pionnière de la beauté » jusqu'au 6 mai 2018 au Muséum Judenplatz à Vienne.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.